Aujourd'hui, dans les lectures, il me semble qu'on a exactement le même message entre Isaïe et l'Évangile, même si ça ne se présente pas de la même manière. Donc dans Isaïe, on a une assez curieuse mission du prophète. C'est assez bizarre parce que... Donc Isaïe est envoyé auprès du roi dont on nous dit il souffrait d'une maladie mortelle. Et Isaïe va lui dire un truc un peu étonnant. Il va lui dire tu vas mourir. Et au fond, il apprend rien du tout à Ézéchias. Apparemment, il lui dit écoute, voilà, tu as une maladie mortelle, tu vas mourir, quoi. Oui, ok, merci. On le savait déjà, c'est quoi l'intérêt du truc. Et nous découvrons que le roi Ézéchias prie. Il dit au Seigneur quelque chose d'extrêmement audacieux. J'ai marché en ta présence, le cœur fidèle, sans partage. Ce qui est bien à tes yeux, je l'ai fait. On est assez loin du psaume 50e. Le mal est sans cesse devant moi, etc. Enfin bon, c'est impressionnant cette prière d'Ézéchias. Pas de raison de penser que ce soit pas vrai, mais tout de même, on a déjà là quelqu'un qui prophétise quelque chose du Nouveau Testament, c'est que c'est pas parce qu'on fait le bien qu'on est forcément en bonne santé. Mais ce qui est plus important, c'est que donc manifestement la parole d'Isaïe a déclenché cette parole chez Ézéchias. Et le livre d'Isaïe nous apprend que Dieu entend et que Dieu voit. C'est très important. Dieu regarde. Nous sommes sous le regard de Dieu. Saint Benoît le dit dans sa règle. Alors nous, on voit peut-être ça comme un regard un peu islamique d'un Dieu qui nous surveille. Mais peut-être c'est un Dieu qui nous surveille comme les parents surveillent leurs enfants. Avec sollicitude, soin, protection. Et pas du tout omnipotence dans le mauvais sens du terme. Et du coup, Isaïe est envoyé à nouveau, quoi. Alors, il y a déjà quelque chose d'assez beau là-dedans, c'est que le prophète, il fait ce que Dieu lui dit, quoi. Et il discute pas, il a pas discuté, il a pas dit, attends, tu viens de me dire l'inverse. Non, non, Dieu te donne, tu y vas. Bon, c'est intéressant, ça, hein. Et donc, il lui dit, voilà, tu vas vivre. Et je te donne même un signe pour te le montrer. Mais alors quel signe, hein? Parce que faire reculer le soleil, c'est quand même pas arrivé très souvent. C'est arrivé une autre fois dans l'écriture où le soleil ne s'est pas couché parce que Moïse levait les bras. Et du coup, l'armée d'Israël a pu rétamer ses ennemis. Bon, je ne sais plus où ça se trouve exactement, peut-être dans le livre de l'Exode. En tout cas, voilà, c'est déjà arrivé, mais là, c'est pour un seul homme. Voilà, tu as la preuve que Dieu est intervenu dans ta vie. C'est intéressant pour nous. Est-ce qu'on voit les signes que Dieu nous envoie pour nous montrer qu'il est intervenu dans notre vie? Et donc, la conclusion de cette lecture, c'est que la présence de Dieu, ça change tout. Ça change tout et ça éclaire ce que je disais au tout début, c'est qu'en fait, Isaïe est bien venu apprendre quelque chose à Ézéchias, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il est venu lui apprendre que c'est pas sa maladie qui lui enlèverait la vie. Parce que Dieu est plus puissant que la maladie. Alors ça peut aussi nous révolter, parce qu'on peut se dire, non, quoi. Moi aussi, je pense à un enfant qui était en train de mourir et ma prière a rien fait, quoi. Donc, les trois là, voilà, alors, et tout est permis, quoi. Bon, il y a un mystère derrière, hein, quel est le plan de Dieu? Et ça ne nous suffit pas, et ça nous laisse le cœur attristé de dire, mais enfin, je comprends pas. Ok, il n'y a rien à ajouter à ça. Ok, tu comprends pas. Mais cette présence de Dieu change néanmoins tout, même si nous ne le voyons pas et si nous ne pouvons pas le comprendre. En fait, c'est assez simple, hein. Si cette présence de Dieu ne change pas, ne change rien, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Donc, bah, choisissez votre camp. Et vous avez le droit de penser que Dieu n'existe pas. C'est un peu absurde, mais il y a des absurdités partout. Alors, dans l'Évangile, on a là aussi une scène assez curieuse. C'est le jour du sabbat, les disciples qui sont là, les apôtres, ont faim, ils arrachent des épis, ils mangent, et les pharisiens font une réflexion. Alors on a l'impression que les pharisiens ils sont en train de regarder la télé, enfin on ne sait pas trop, ils sont dans un observatoire, mais la voix porte, parce qu'ils disent un truc à Jésus. C'est assez curieux comme scène, hein. Il faut reconnaître que... En tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ne s'adressent pas aux fautifs, à ceux qui sont fautifs à leurs yeux. Ils pourraient dire aux apôtres, eh oh les gars, ça va pas ça. Et non, ils s'adressent à Jésus. Donc, ces pharisiens se disent, ce Jésus, il a quand même une autorité curieuse. Voilà. Donc, et que fait Jésus? Alors, ça, c'est assez intéressant de voir que Jésus renvoie à David. Dans le livre de Samuel, je crois que c'est un Samuel 23, on a ça dans les notes des Bibles. Hein. Samuel a demandé à... Un jour, il était en mission. Enfin, il prétend être en mission, en fait, il fuit devant Saül. Mais il dit qu'il est en mission. Et il dit cette chose très extraordinaire, il dit, voilà, je suis en mission secrète. Et moi, je me dis que Jésus, il est aussi en mission secrète. Vous savez, c'est redondant dans l'écriture. Il faut pas qu'on ne dit pas tais-toi, les démons disent je sais qui tu es, tais-toi. Je suis en mission secrète. Ça nous interroge. Hein. Et puis ensuite, Jésus renvoie au prêtre, avec le livre du Lévitique, je pense. Les prêtres qui sont seuls à avoir le droit de manger ces fameux pains que David a boulottés. Avec ces hommes, moyennant l'assurance qu'ils étaient en état de chasteté, etc. Bon. Règle qui s'appliquait aux prêtres aussi à ce moment-là. Et donc on peut se demander si au fond Jésus n'est pas en train de dire que ses disciples sont les prêtres, quoi. C'est intéressant ça aussi. C'est une question. En tout cas, ce qui est clair là aussi, c'est que la présence de Jésus change. On a le droit de manger le jour du sabbat parce que Jésus est là. La présence de Dieu change tout là aussi. C'est le même message, en conclusion, que le livre d'Isaïe. Et donc, ce que ça peut nous apporter, c'est au moins deux questions. Dans nos vies, avons-nous conscience de cette présence? Ou bien est-ce qu'on se la joue comme les pharisiens? À regarder du haut de notre observatoire. Beaucoup de gens se permettent des critiques qu'on ne se permettait même pas il y a 25 ans, notamment sur le pape, sur le magistère, sur les laïcs, sur tout un tas de choses. On croit avoir le droit de dire tout sur tout, un peu comme des pharisiens, quoi, finalement, qui restent au loin et qui ne veulent pas se mêler à la réalité de la vie. C'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, est-ce que nous restons en arrière ? Un peu comme ces pharisiens, finalement, qui disent « là, tu respectes pas les règles, hein, mon gars, ça va pas du tout. Hein. » On peut pas t'entendre, t'es pas dans les règles. Et Jésus vient nous dire « si vous sortez pas des règles, vous m'entendrez pas. » Je crois que c'est ça qu'il dit. Allez chercher ce qu'il y a derrière, puisque ça vous choque. Allez regarder s'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc est-ce que nous avons conscience de la présence de Dieu, des signes qu'il fait dans notre vie? Parce qu'il en fait. Mais est-ce que nous savons les demander? Pas les demander, Ézéchias ne les a pas demandés. mais prier et voir la réponse. Et parfois Dieu prend cette peine de confirmer la réponse par un signe. D'où l'importance pour nous de ne pas avoir peur de poser des signes qui peuvent peut-être parler aux autres aussi. Nous sommes aussi les mains de Dieu. Des signes, un signe de croix. Vous passez devant un calvaire, devant une croix. Il y en a un certain nombre en France. Vous faites un signe de croix. Ben, les gens vous voient faire un signe de croix. Pas un chasse-mouche, hein, un signe de croix. Voilà. Dieu fait des signes et nous avons aussi à faire des signes. Alors puissions-nous demander cette grâce aujourd'hui, cette présence de Dieu. C'est un peu le toi qui montre la lumière aux égarés, hein. C'est l'oraison d'ouverture. Voilà, entrons dans la joie extraordinaire de cette présence de Jésus dans nos vies. Amen.